nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Les cadrans solaires sont de beaux objets qui permettent de mesurer le temps solaire par l'ombre portée du gnomon, souvent un élément vertical, sur une surface généralement graduée. Emmanuel Poule, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, a eu la gentillesse d'accepter de venir nous parler des cadrans solaires du Palais de l'Institut de France. Emmanuel Poule, bonjour.
Bonjour madame.
Emmanuel Poule, vous avez été élu en 1996, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Vous êtes médiéviste, spécialiste de l'histoire des sciences, de l'astronomie médiévale, des instruments anciens, de l'horlogerie astronomique et planétaire, et spécialiste bien sûr de paléographie latine et française. Alors Emmanuel Poule, le palais de l'Institut abrite deux cadran solaire, un placé sur la façade extérieure de la coupole dans la première cour, visible dans la première cour d'honneur du palais, et puis un second situé dans la deuxième cour sur l'une des façades et qui a été récemment rénové. Quelle est donc l'histoire de ces cadrans, Emmanuel Poule ?
Je pense qu'ils ont été, on n'en est pas certain, mais je pense qu'ils ont été installés dès l'origine du collège Mazarin, c'est-à-dire dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Leur fonction est de donner l'heure, bien sûr, mais je pense qu'ils ont aussi une fonction pédagogique, puisque le collège Mazarin avait une forte réputation en matière d'enseignement des sciences, et notamment de l'astronomie. Donc ces deux cadrans s'adressent à des publics, probablement au même public, mais ils ont la particularité d'être tous les deux des cadrans doubles, c'est-à-dire un tableau pour le matin et un tableau pour l'après-midi. Dans la première cour, le cadran a perdu un de ses tableaux. Il n'y a plus qu'un demi-cadran, si je puis dire. Il a été très profondément restauré au milieu du 19e. Il a été encore rafraîchi, restauré il y a 25 ans. Et on ne sait pas quand le premier tableau a disparu. Il était probablement sur le mur de ce qui est aujourd'hui la bibliothèque Mazarine, qui est symétrique de celui où est le tableau du matin.
Il y a 15 mètres à peu près entre d'écart entre les deux, même plus. C'était fréquent que le second tableau soit aussi éloigné. C'est par souci de symétrie par rapport tout simplement aux bâtiments qui sont là quand même assez importants.
Les cadrans solaires avec un double tableau ne sont pas très fréquents. Ils ne sont pas rares non plus. À Paris, il y en a un qui est assez célèbre, mais malheureusement très difficile à voir parce qu'il est dans les murs de l'ambassade du Royaume-Uni à Paris. Donc il n'est pas accessible à tout le monde. Donc ceux de l'Institut représentent de voir de tels cadrans doubles. Non, je pense que leur objet, ça permet de répartir la surface, d'éviter d'avoir un très grand tableau. On les répartit en deux. L'un fait la suite de l'autre, en somme. Tous les deux se terminent par une ligne de midi qui est verticale, et l'autre ligne de midi est verticale, et l'affichage commence alors.
Alors, que sait-on sur eux ? On a les dates où ils ont été réalisés ?
Non, on ne sait pas grand-chose. On a des comptes qui indiquent qu'un tel a été payé tant pour faire une gravure. On suppose que c'est lors de l'installation, mais ça pourrait être aussi une restauration ou une intervention après. On connaît l'inscription du tableau de la première cour par des témoignages écrits. Ils ont des guides de Paris, des guides anciens de Paris, qui ont donné le texte. Le texte qui figure actuellement est totalement neuf.
Quelle était donc la première devise,
Cela, oui. La devise actuelle se contente de dire que c'est le cadran du collège Mazarin, et une mention a été rajoutée, elle a été probablement très effacée, donc on a créé une mention pour dire qu'il a été restauré en 1981. Ça, c'est dans la première cour.
Hein. Oui, ça, c'est celui, la cour d'honneur. Celui qui est donc sur la façade de la coupole.
La façade de la coupole. Celui dont la moitié est sur la façade de la coupole. Voilà. La moitié subsiste.
L'autre moitié ayant disparu. Voilà. Et puis, il y a ce second cadran qui est Peut-être qu'on pourrait d'abord le décrire aussi, celui de la première cour. On ne l'a pas décrit parce qu'il est quand même... Vous avez décrit le cadran, mais il est, celui de la seconde cour est plus neutre, entre guillemets, plus sobre.
Il est moins, plus sobre, oui. Celui-là que je vois de la fenêtre, il a les lignes horaires, comment, des droites convergentes en un point qui est d'ailleurs à l'extérieur du cadran, peu importe. Et les heures sont inscrites sur une bande festonnée. Qui, je pense, correspond à celle qui était à l'origine. Je n'en suis pas sûr. Tandis que dans la deuxième cour, il ne subsistait aucune inscription. Et on ne sait pas s'il y en avait, on n'en a pas conservé la trace. Voilà, s'il y en a une, on n'en connaît pas le texte.
Alors, justement, au moment de la restauration de ce cadran, toute récente, parce qu'il a été restauré...
Il y a un mois.
Il y a un mois, tout juste, vous a demandé de trouver une devise.
Alors, la restauration comportait trois volets. Il y avait la restauration des gravures, la restauration du style, c'est-à-dire du gnomon, et le choix d'une devise. Alors, la restauration des gravures a été faite en tenant compte de traces extrêmement effacées qui subsistaient encore et qui ont été contrôlées astronomiquement par un spécialiste des cadrans solaires, Denis Savoie. La restauration du style, on a simplement vérifié, ils étaient un peu branlants, on les a donc consolidés. Quant à la devise, le secrétaire perpétuel de l'Académie m'a demandé de lui proposer, de lui faire des propositions pour créer une devise qui n'existait pas. C'est une tradition. Il y a des cadrans solaires qui n'ont pas de devise, mais la plupart ont une devise. Une devise qui soit une invocation pieuse, soit le plus souvent le rappel de la précarité du temps terrestre et de la nécessité de se préparer à la vie éternelle.
J'ai choisi quelque
chose qui rappelle quand même que les membres de l'Institut sont qualifiés d'immortels. Or, il est évident qu'eux-mêmes ne le sont pas. c'est une illusion. Mais leurs œuvres peuvent l'être si elles sont sérieuses. Donc, j'ai cherché quelque chose qui rappelle où le mot immortel figure, mais en l'appliquant très modestement aux œuvres et non pas aux hommes.
Alors, voilà. Vous pouvez nous dire cette devise latine ?
Alors, en plus, il fallait trouver une devise qui puisse se répartir sur les deux, tableaux. Puisque...
Alors, ceux-là sont très rapprochés. Les deux tableaux sont séparés par une fenêtre.
Ils sont simplement séparés par une fenêtre. Chacun est entre deux fenêtres et ils ont entre eux une seule fenêtre. Donc, le passage, si je puis dire, la séquence entre le transfert du matin à l'après-midi se fait très, très simplement dès que l'ombre est sur la ligne verticale 12. Il est à la fois sur l'une et sur l'autre et on enchaîne sur la suivante. Donc il fallait trouver quelque chose qui comporte une devise qui puisse se partager en deux, moitié sur chaque
tableau. Et voilà, d'accord.
Alors la devise retenue a été « Horas tuas quia breves ». Et puis sur l'autre tableau, Operibus immortalibus vove. C'est-à-dire, puisque tes heures sont courtes, brèves, puisque ton temps est compté, consacre-le à des travaux immortels.
À des œuvres immortelles. À quelles œuvres immortelles ?
Ce sont des livres.
Des livres, bien sûr.
Les livres, les travaux fondamentaux de tout historien, qui sont certes d'écrire des livres, mais de fournir aussi des sources pour les historiens futurs, c'est-à-dire de conserver et de transmettre d'exploiter et de transmettre les documents anciens. Ces documents étant soit des inscriptions, soit des documents écrits sur des supports variés, soit des témoignages, soit des... Voilà.
Ça n'est pas très fréquent quand on vous demande de trouver une devise.
Non, j'avoue que c'est la deuxième fois que je suis sollicité pour une devise. La première, c'était il y a environ une quarantaine d'années, pour une relation tout à fait privée. Et je ne me souviens plus de la devise que j'avais proposée, sinon que cette relation avait comme prénom Félix et que j'ai joué sur le mot les heures heureuses. Donc je lui avais proposé une devise qu'il a évidemment acceptée. Il a même non seulement accepté la devise, mais il a aussi fabriqué le cadran lui-même avec donc cette devise qui rappelait le prénom Félix dans la formule.
Trouver des inscriptions, des devises, c'était la mission première de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
C'était la mission première de l'Académie royale, celle qui a été fondée à la fin dans le courant du XVIIe siècle et qui devait fournir des devises aux médailles, surtout aux médailles que frappait le roi pour illustrer son règne. Cette fonction est très, très... maintenant très éloigné dans le temps. Et je n'ai pas entendu dire que l'Académie en tant que telle ait été sollicitée depuis 150 ans pour proposer des devises à la République.
Voilà. Là, au moins,
elle retourne à ses sources.
Voilà. Quel est pour vous le plus beau cadran solaire ?
Oh, c'est bien compliqué. Le plus beau cadran solaire n'existe pas. C'est celui que j'aurai sur ma maison et je n'en ai pas. les cadrans solaires sont très très pratiqués dans la population rurale en particulier ou urbaine aussi. Mais il y a des cadrans publics, mais il y a beaucoup de cadrans privés et qui sont l'illustration et le décor et aussi la noblesse d'une maison.
Oui. C'est un succès même chez les particuliers. Il y a des sites internet pour faire son cadran solaire. C'est quand même étonnant.
Je viens de me procurer, on m'a donné un livre qui est paru il y a pas très longtemps, il y a quelques années, une devise recensant toutes les devises qui ont été connues, attestées, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que la devise que j'ai créée n'y est pas. Et c'est probablement incomplet. En réalité, les cadrans solaires sont relativement fragiles parce que pour peu qu'ils aient perdu leur style, qu'on ne sache pas s'en servir, et lors d'un ravalement de maison, lors de travaux, ils disparaissent comme a disparu la moitié du cadran de la première cour de l'Institut.
Bon, eh bien écoutez, heureusement qu'il y a des restaurations aussi pour pouvoir mettre en valeur ce qui reste.
Oui, c'est une très belle tradition que d'avoir des cadrans solaires sur les maisons ou dans les jardins publics. Il y a des pays où cette tradition est encouragée, entretenue. Et par exemple, en Pologne, où j'ai été il y a... une cinquantaine d'années, et j'avais été frappé, il y a des cadrans solaires sur toutes les places en ville.
À Paris, il y en a pas mal quand même. On les voit pas.
Oui, à Paris, il y en a pas mal, mais
sont un petit peu cachés.
C'est André Gotteland a fait un livre sur les cadrans solaires de Paris. Elle les a tous recensés, mais ce sont pour la plupart des cadrans privés, même s'ils sont sur des monuments publics. Voilà, ils sont à l'intérieur d'une cour. Ils ne sont pas sur les places publiques ou peu sur les places publiques. Alors que c'était la tradition la plus ancienne d'avoir des cadrans sur les places publiques. La tradition romaine, la tradition grecque, c'était une façon publique d'offrir l'heure à ses concitoyens.
Emmanuel Poulle, merci pour cet entretien. Grâce à vous, on sait vraiment beaucoup de choses sur les cadrans, sur le temps, sur la mesure du temps. Je rappelle à nos internautes qu'il y a une autre émission avec vous, Emmanuel Poulle, sur le temps et les calendriers à l'époque médiévale. Thank you.